Victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ensemble on chante ton nom est victorieux. toi, regarde tes yeux, regarde-les, étincelants, colorés. Chacun est unique, et je les ai tous créés. J'ai tout créé, l'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité, je t'ai créé pur, complexe, et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. Tu t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose pour combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus. Que cherches-tu ? Je ne veux pas que tu meurs. Je t'ai créé. Non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenue comme toi, une créature fragile. J'ai été tentée, mais je n'ai jamais péché. Je suis venue te sauver. Tu as tellement péché, et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir, toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché, j'ai échangé ma vie contre la tienne, et je suis mort à ta place, parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance, je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi. Me suivrais-tu ?
Dieu ensemble. Christ est ressuscité. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Alléluia. On va chanter ensemble. Lève-toi mon âme.
Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Tout mon péché et la honte.
Et son église chante.
Ce n'est
va prendre ce nouveau chant. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. Et ce refrain qui dit, si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux.
Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait m'aura.
Seigneur, nous te bénissons ce matin. Parce que de grâce en grâce, c'est le chemin que tu nous fais traverser. De grâce en grâce, grâce après grâce, grâce au-dessus de grâce. C'est ce qui caractérise qui tu es, Jésus. Justice, vérité, grâce, tout ça, Seigneur, c'est ce qui te caractérise. Seigneur, et ton Église te loue. Commençons à louer Jésus ensemble ce matin. Remercions-le. Considérons la grâce qui nous permet d'être là. Considérons la mort et la résurrection de Christ. C'est ça qui nous permet d'être là ce matin. Ce n'est rien d'autre, ce n'est pas nos propres forces, ce n'est pas même nos faiblesses. Rien ne nous qualifie d'autre que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ au travers de son sacrifice. Église, lève ta voix pour élever ton Sauveur. Alléluia Jésus. De grâce en grâce, Seigneur. De grâce en grâce, Jésus. De grâce en grâce. Alléluia, alléluia.
Thank you. Amen. Bienvenue à tous, très heureux d'être avec vous pour célébrer Pâques. Quelle belle fête que de se rappeler que quelqu'un est mort pour nous sauver, pour nous reconnecter avec Dieu. Et on célèbre Pâques, mais on continue dans notre série sur Éphésiens. Pasteur Raymond Pierre a prêché sur Éphésiens 1. Et combien sont reconnaissants d'avoir juste pu entendre à quel point notre identité en Jésus elle est riche. Qu'on est pardonné, qu'on est racheté, qu'on est élu, qu'on était prédestiné, que Dieu avait tout prévu d'avance pour nous bénir de toute bénédiction spirituelle céleste. Combien sont reconnaissants pour ça? Yes. Un des défis qu'on a, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'on peut vite souvent l'oublier. À quel point tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est riche. Je pense que vous connaissez le chanteur Corneille. Qui connaît Corneille? Il a créé un tube en 2002 qui s'appelle « Parce qu'on vient de loin ». Okay. J'aimerais vous le chanter, mais je ne suis pas ma femme, donc je vais vous garder de ce mal-être. Et, il a écrit, et voici ce qu'il dit dans les paroles suivantes. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on... Voilà, comme ça j'aurais pu dire que j'ai accompagné une foule de 500 personnes à chanter un chant avec moi. Non. Parce qu'on vient de loin. En fait, il a écrit ce chant, pourquoi? Parce qu'à 12 ans, Corneille a quitté le Rwanda, à cause de la guerre, contexte compliqué. Et les premières paroles, c'est « Nous sommes nos propres pères ». Parce qu'il s'est dit « Mais j'ai grandi trop vite, mon passé était compliqué ». Et il a écrit une chanson pour dire « Mais en fait, maintenant, je vais vivre chaque jour comme le dernier, parce que je me souviens de là où je viens. Je me souviens de quelle galère je suis sorti. » Et en fait, peut-être c'est votre histoire aussi, vous dites « Mon passé, il est compliqué. Mon passé, il est douloureux, mon passé, il est ce qu'il est, puis mon passé, j'ai envie de l'oublier. Puis aujourd'hui, j'ai développé comme une reconnaissance de les moindres détails, un peu comme Balou. Il en faut peu pour être heureux. Il avait compris beaucoup de choses, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Et c'est exactement le principe que l'apôtre Paul va utiliser dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Alors qu'au chapitre 1, il développe qui on est en Jésus, tout ce que Jésus a fait pour nous, puis c'est juste fou. Et après, il va juste faire stop, les gars, stop. On va juste se rappeler là d'où l'on vient. Là d'où l'on vient. Et il va faire un constat, et il va juste, en trois versets, expliquer à quoi ressemble notre vie sans Dieu. Et c'est le premier point. Ce que nous sommes sans Dieu. Éphésiens 2, verset 1. Juste quelques mots, mais très, très, très durs. Quant à vous, vous étiez morts. Bonne Pâques à chacun. On est vraiment content de vous accueillir ce matin. Est-ce qu'il y a des morts dans la salle? Non, je rigole. Quant à vous, vous étiez morts. C'est radical. C'est... Il prend pas par quatre chemins. Il dit, il va dire la vérité, ok? On est tous sans Jésus, mais juste rappelez-vous une chose. Sans Jésus, on était mort. Et puis il continue. Sans Dieu, on est mort spirituellement. Verset 1 à verset 3. Quant à vous, vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois. Et là, il va juste décrire à quoi ressemble notre vie sans Dieu. Conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement en l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Chaque être humain sans Dieu est mort spirituellement. Pourquoi ? Parce que le péché t'a séparé de Dieu. Le péché te sépare de Dieu et Dieu est la source de ta vie spirituelle. C'est comme quand tu prends une plante et tu la déracines. Elle va mourir. Ou comme quand tu t'arrêtes de l'arroser. C'est pour ça qu'on n'a que des plantes grasses à la maison. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Mais même une plante grasse, quand tu ne l'arroses pas, elle va mourir. Même si tu as juste une bonne éthique chrétienne, sans Dieu, tu meurs. Sans Dieu, tu meurs. C'est la mort spirituelle, le fait d'être séparé de Dieu. Il n'y a pas qu'on parle de résurrection, mais en fait, il n'y a pas de résurrection sans mort. Si vous prenez un défibrillateur et vous le faites sur quelqu'un de vivant, vous n'allez pas le ressusciter, vous allez le tuer. Okay? Pour ressusciter quelqu'un, il faut d'abord que la personne soit morte. Ou en tout cas, il faut d'abord que la personne reconnaisse qu'elle est morte. Reconnaître qu'on a besoin que quelqu'un vienne nous ramener à la vie. On est tous séparés de Dieu. Tous séparés de Dieu. Et pourquoi sommes-nous morts ? Le verset 1 le dit, on le relit. Verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Fautes et péchés, c'est ici, c'est la même chose. C'est juste une emphase de l'apôtre Paul pour dire, en fait, c'est à cause de la désobéissance. Le péché, si c'est la première fois que tu l'entends, ou peut-être c'est un mot grossier pour toi, ça veut juste dire manquer la cible. Passer à côté de ce que Dieu voulait que tu fasses, ou passer à côté de ce que Dieu voulait que tu fasses pas aussi. C'est passer à côté des lois et des commandements de Dieu, de l'éthique de Dieu. Le péché, dès la naissance, on le voit, tous ceux qui ont des enfants disent amen. Non ? Moi j'ai une fille de 4 ans et je le vois que le péché habite en elle, même si elle est super gentille et super... On est tous rebelles dès la naissance. Et il y a deux conséquences à cette mort. Dans le verset 2 et 3, l'apôtre Paul va développer deux conséquences à cette mort. Et la première, c'est que ça nous rend esclaves. Là, vous allez dire, mais non, je suis esclave de rien, moi je vis ma vie, je... Ok, on va juste voir ensemble trois ennemis identifiés qui nous rendent esclaves. Premièrement, c'est la société. Je ne suis pas du tout complotiste ici, hein. Je vais juste décrire ce que la parole de Dieu nous dit. La façon de vivre de ce monde, verset 2, conformément, donc on agissait conformément à la façon de vivre de ce monde. Et que tu le veuilles ou non, la société est anti-Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a... Il y a certaines valeurs chrétiennes dans la loi, tout ça, que la société est pour Dieu. Non, que ce soit le LFI, le RN ou Renaissance, il y a toujours des points communs avec l'éthique de Dieu. Mais aucun parti politique ne représente parfaitement le cœur de Dieu. Sinon, ce serait pas... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne vous dit pas pour qui voter. Parce qu'en fait, chaque parti représente une facette du caractère de Dieu. Mais chaque parti représente aussi ce qui est en horreur à Dieu. La société est anti-Dieu. Et Jésus va le dire. Jésus va dire à ses disciples, si le monde vous haït, rappelez-vous qu'il m'a haï le premier. Le monde haït Dieu. Et c'est d'une manière inconsciente, des fois on ne se rend même pas compte, mais le monde est anti-Dieu. Ce n'est pas un meilleur président qui va nous sauver.
C'est pas un meilleur parti politique qui va nous sauver. C'est pas une meilleure assos qui va nous sauver. Non, c'est le fait qu'on se tourne vers Dieu. On a mis Dieu de côté. Voilà pourquoi le monde est anti-Dieu, parce qu'on l'a mis de côté. Ça nous rend esclaves. Et puis quand on regarde la société, ça nous encourage à la consommation, au paraître, à la liberté à tout prix, au wokisme, à plein de choses en fait qui, 95% de vérité parfois, mais 5% de, en fait non, on met Dieu de côté. On est esclave souvent sans se rendre compte de la société. J'aime regarder les informations. Je sais pas vous, moi, j'aime bien un petit peu regarder CNews, BFM TV, bon, chacun sa chaîne préférée. Mais je suis honnête avec vous, si je veux pas régulièrement aller renouveler mes pensées dans la parole de Dieu, alors toutes les vidéos que je regarde sur les débats politiques, moi j'aime vraiment regarder ça, les débats entre Bardella, Mathilde Panot, enfin bref, moi j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu politique, mais si je me ressource pas en Dieu, si je me ressource pas dans sa parole, alors c'est ça qui va influencer mes pensées. Et c'est ça qui va me rendre esclave sans que je me rende compte. Et en fait, je vais penser comme eux. Et puis des fois, il y a des bonnes choses, des fois, il y a des mauvaises choses aussi. Mais si je pense pas comme la parole de Dieu, je suis esclave de la société. Parce qu'elle t'emmène à croire et du coup à agir en fonction de ce qu'elle dicte, elle. Comme l'a dit le théologien Dominique Angers, le monde est le grand système qui s'oppose à Dieu, comprenant les personnes qui contestent l'autorité divine, souvent à leur insu. C'est la société organisée sans Dieu, l'ensemble des valeurs communiquées par les raisonnements humains, parfois par les médias, parfois par la culture populaire, et on aurait pu continuer. Mais quand on est sans Dieu, sans se rendre compte, on est esclave de la société et tout ce qu'elle enseigne. Le deuxième ennemi, et c'est justement lui qui va influencer toute la société, le deuxième ennemi, c'est Satan. Verset 2. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Deuxième ennemi, Satan, l'adversaire, le diable, plusieurs noms lui sont attribués. Et Jésus va lui donner le nom de le père du mensonge. Le père du mensonge. Tout est influencé par lui. Tout est influencé par lui. C'est C.S. Lewis qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les tactiques du diable ». Et dedans, c'est comme un démon qui enseigne un de ses disciples à comment détourner les chrétiens de Dieu. Et c'est dans un contexte où c'était la Seconde Guerre mondiale, un petit peu après. Et ce qu'il va dire, c'est super intéressant, il disait « Mais en fait, essaye de faire croire aux chrétiens que le vrai ennemi de la guerre, c'est Hitler. » Il dit « Parce que s'ils ont identifié Hitler comme étant le vrai ennemi, alors on a gagné. Parce que c'est nous qui l'influençons derrière. » Le diable influence ce monde. Satan influence ce monde. Jésus va dire, c'est le prince de ce monde qui conduit tous les hommes rebelles. Satan est le deuxième ennemi. Et le troisième ennemi, il est un peu plus subtil, mais là, on est tous touchés par ça. Nos désirs égocentriques. Nos désirs égocentriques. Verset 3. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Je dois vous confesser un péché. Moi, je cuisine à la maison. Et avec ma femme, on aime bien souvent manger des gnocchis à poêler. Je veux pas dire la marque, mais ça finit par cru. Je vais pas dire la marque. Et souvent, on achète un petit paquet comme ça, puis on se fait une petite viande, des légumes à côté. C'est moi qui cuisine. Et on essaye d'être égalitaire. Okay, on essaye d'être vraiment dans l'égalité. Du coup, on partage le paquet en deux, normalement. Sauf que des fois, il y a un chiffre impair. Du coup, c'est moi qui cuisine. Je suis un homme, j'ai besoin de plus de calories. Amen. Je confesse un péché, ok? Vous me pardonnerez à la fin si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que bon, au début, je respectais. Au début, je faisais vraiment, voilà, s'il y en a 32, je divise par 2, ça fait 16 chacun, tout ça. Mais sauf qu'en fait, un cuisinier, il a besoin de goûter la nourriture, normalement, pour savoir si c'est bien assaisonné et tout ça. Léa, c'est vrai ou pas? Voilà, exactement. Donc ce que je fais, c'est que je divise pas 32, je divise 28. Parce que j'en mange 4 avant pour voir si c'est bien cuit. Et ça, c'est un désir égocentrique, qu'on le veuille ou non. C'est « Ah, j'ai envie d'en prendre un peu plus pour moi. » Excuse-moi, Anne-Clémence. Je sais pas, t'es où. Mais excuse-moi. Mais je fais à manger quand même. Vous voyez, je trouve encore des excuses. Je trouve encore des excuses, c'est incroyable. Ou alors, un exemple concret aussi. Quand vous regardez une photo de classe ou une photo de famille, c'est la tête de qui que vous allez regarder en premier? Ben, c'est vous! C'est moi, on pense à nous, premièrement, on est comme ça, c'est notre nature. Troisième exemple, et celui-là, il m'énerve. Okay, je suis un grand fan des films romantiques. Qui aime les films romantiques ici? Ok, il n'y a que des femmes qui lèvent la main à part Jackie. Jackie, on est ensemble. On est ensemble, Jackie, c'est pas grave. Qui a déjà vu le Titanic? Ok, je dois vous avouer, quand j'étais ado, je rêvais d'avoir une histoire comme ça. d'être Jacques, de gagner mon ticket en jouant au poker. Et puis là, t'arrives, t'es dans la classe sociale basse. Et puis là, tu rencontres Rose, incroyable, une bourgeoise. Et puis là, tombe amoureux, tout ça, c'est super beau. Et on est pris dans l'histoire d'amour. Sauf qu'on oublie un détail. Rose, elle est fiancée. Et tout le monde s'en fiche. Rose trompe son futur mari et nous, on trouve ça beau. Wow, c'est incroyable. Et puis là, bon, parenthèse, il aurait pu survivre, il aurait pu trouver une place sur le radeau à la fin. Franchement, non, ça c'est vrai. Mais tu sais, on met ça de côté, on se dit, oh, c'est tellement beau, elle a écouté son cœur. Bah ouais, mais elle a détruit son futur mariage. Et ça, c'est les désirs égocentriques. Et ça, on se rend pas compte, mais tu sais, aujourd'hui, c'est de plus en plus populaire. Écoute ton cœur. Suis les désirs de ton cœur. Combien de « écoute ton cœur » t'ont fait acheter des choses que t'as regretté plus tard? Nous, une voiture au Québec, je me souviens, on a acheté une voiture, on a regretté plus tard parce qu'on a écouté notre cœur. Combien de « écoute ton cœur » t'ont emmené sur des chemins où finalement t'es tombé addict à certaines choses? Combien de « écoute ton cœur » t'ont emmené à avoir des relations qui étaient néfastes pour toi? Combien de « écoute ton cœur » ont brisé des couples? Les désirs égocentriques. Troisième ennemi, puis ça, on est tous touchés par ça. Théologien Klein Snodgrass a dit la chose suivante. Les envies et les désirs font référence à des besoins humains, légitimes, qui sont déformés, subvertis et exacerbés, pour produire un égocentrisme irrationnel. Puis là, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce qu'on recherche à travers ça, tout ce qu'on cherche à travers l'esclavage qu'on vit sans se rendre compte, c'est des choses dont on a besoin. En fait, on veut juste remplir notre jauge d'amour. Et là, tous les sociologues vont le dire. On a une jauge d'amour, une jauge d'affection qu'on veut remplir. Et en fait, comme on est censé la remplir en Dieu, et que là, on est séparé de Dieu, on va la remplir avec plein d'autres choses. Avec le sexe, avec l'argent, avec la gloire, avec le travail, avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, avec plein de choses qui vont nous faire penser qu'on est aimé, qu'on est accepté, qu'on a de la valeur. Sauf que tout ça, on est censé le trouver en Dieu. Premièrement, on est tous esclaves à ça. Et le dernier constat que l'apôtre Paul fait, c'est à cause de tout ça, à cause du péché qui nous sépare de Dieu, qu'on est destiné, deuxième point, à la colère de Dieu. Et là, c'est un gros terme. Destiné à la colère de Dieu. Puis là, on s'imagine Dieu qui prend son arc du haut du ciel et qui nous... Non, on est destiné à la colère de Dieu, verset 3. Et nous étions, par notre condition même, destiné à la colère, tout comme les autres. Et là, il met tout le monde dans le même bateau. On est tous destinés à la colère de Dieu. Tous destinés. On a péché contre Dieu. On lui a brisé le cœur. On a brisé cette alliance qu'il avait faite avec nous quand il nous a créés. Et on est tous destinés à la colère de Dieu. Puis c'est quoi littéralement la colère de Dieu? C'est on est destiné à la mort. Le Nouveau Testament est clair et dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la vidéo qu'on a vue, justement, le dit. T'as trop péché, tu méritais la mort, mais j'ai pris cette mort sur moi. J'ai pris cette mort sur moi, on était destiné à la colère. Et en fait, Paul, il fait comme un médecin qu'on n'aime pas écouter qui nous dit qu'on a une maladie incurable. Il pourrait mentir, il pourrait dire « Ah, bon, en fait, il y a le péché, tout ça, mais on peut quand même s'en sortir par nous-mêmes. » Mais en fait, non, tu as une maladie incurable. Et c'est vrai que tu peux, parfois, par une éthique chrétienne, rallonger un tout petit peu ton espérance de vie, mais ça va quand même te mener à la mort. Ça va quand même te mener à la mort. Et là, c'était la mauvaise nouvelle. C'est un petit peu lourd hein, comme ambiance maintenant. Hein. Mais c'est que comme ça qu'on peut réaliser à quel point en fait ce que Jésus a fait, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ce que nous sommes sans Dieu et maintenant ce que Dieu a fait. Verset 4. Et là, c'est deux mots. Deux mots qui viennent changer la suite, qui viennent changer le cours de l'histoire. Deux mots qui sont tellement importants. Verset 4. Mais Dieu. Ces deux mots-là, c'est les mots les plus importants de ta vie. C'est les deux mots les plus importants qui viennent basculer, qui viennent changer l'atmosphère du récit. Là, il est en train de dire, on était mort. Mais Dieu. Et c'est pas, mais j'ai été courageux, mais j'ai pu m'en sortir. Non, c'est pas par rapport à toi. Le protagoniste de l'histoire, c'est Dieu. C'est lui qui peut faire quelque chose. Et là, il le dit, mais Dieu. Ça veut dire que mon péché était grand, il me séparait de Dieu, mais Dieu. Mes fautes me couvraient de honte, mais Dieu. Ma situation était désespérée, mais Dieu. Je cherchais en vain, par n'importe quel moyen d'être aimé, mais Dieu. Deux mots importants. C'est pas j'ai réussi ou je me suis relevé. Non, c'est Dieu Je peux rien faire sans l'action de Dieu. Et le texte explore cette bonne nouvelle. Après, il va dire trois verbes d'action qui sont engagés par Dieu et qui sont toujours liés avec Jésus. Vous allez voir, super intéressant. Premièrement, on va décrire le caractère de Dieu. Verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion. » Et là, c'est un détail souvent qu'on met de côté. L'apôtre Paul ne commence pas par ce que Dieu a fait, il commence par qui Dieu est. Parce que ses actions sont toujours liées à ses attributs, sont toujours liées à son caractère. Et on peut trouver ça anodin, mais en fait, c'est ça qui nous garde. Parce que si ses actions étaient liées en fonction de notre mérite, Dieu n'aurait pas agi. Mais parce que Dieu ne change pas, et parce que Dieu agit en fonction de ses attributs, son caractère, et parce que Dieu est amour, ça veut dire que rien, nada, je parlais un petit peu espagnol, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu parce qu'il est amour et qu'il ne peut s'empêcher d'aimer. Il ne peut s'empêcher d'aimer, peu importe tes fautes, peu importe ce que tu as fait par le passé, peu importe ta souffrance, peu importe où t'en étais, peu importe ton histoire, mais Dieu est riche en compassion. Dieu est riche en compassion. Comme le dit, encore une fois, Snodgrass, la miséricorde et l'amour sont des révélations de l'être de Dieu, et non une réponse à quelque chose qui mérite l'amour dans l'individu. Dieu agit avec miséricorde parce qu'il est ce genre de Dieu. Et là, c'est tellement rassurant pour nous. Parce que oui, on a de la valeur, oui, on est des créatures merveilleuses, mais la vérité, c'est que notre péché nous séparait de Dieu. Mais Dieu est riche en compassion. Dieu est riche en compassion, et ça me rassure. Ça me rassure tellement, parce que c'est pas basé sur mes mérites, c'est pas basé sur moi, c'est basé sur qui Dieu est, et Dieu ne change pas. Tout est basé sur lui. Et après, les trois verbes d'action. Éphésiens 2, versets 5 à 7. Nous qui étions morts, il rappelle encore une fois, en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Et là, les verbes d'action, ils sont super clairs et toujours attachés à Jésus. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Et là, c'est super intéressant. Le mot avec, en grec, c'est un préfixe qui veut dire littéralement synchroniser. Et tous ceux qui sont en informatique, ils savent ce que ça veut dire. C'est comme quand tu prends ton téléphone, tu le branches sur ton ordinateur et toutes les données de ton téléphone, tu les transfères à l'ordinateur. Et là, ça dit que Dieu nous a pris, nous a branchés à Jésus, et toutes les données que Jésus a dans sa vie, il nous les transfère. Et là, c'est fou, c'est un principe de fou. Ça veut dire que sa mort, c'est ma mort. Ça veut dire que sa résurrection, c'est ma résurrection. Ça veut dire que sa victoire, c'est ma victoire. Il nous partage tout ce qu'il a. Il nous partage qui il est. Il nous partage tout ce qu'il a gagné. Il a terrassé à la mort, du coup, il terrasse notre mort. On est comme avec lui en train de faire de la natation synchronisée. Et là, vous voyez Jésus au milieu de main, vous dites, mais où est-ce qu'il est parti? Non, mais c'est ça. Quand Dieu nous regarde et nous voit de manière synchro avec Jésus, il y a eu un échange à la croix. Quand tu mets ta foi en lui, puis on va voir ensuite ce que ça veut dire mettre sa foi, avoir confiance en Dieu. Quand tu mets ta foi en Jésus, Dieu te regarde et il voit Jésus. Tout ce que Jésus a fait, toutes les actions que Jésus a fait, il te les impute. Et c'est à toi, c'est comme si toi tu les avais fait. Sa mort, c'est comme si toi t'étais mort. Sa résurrection, c'est ta résurrection. Et ensuite, il t'a fait asseoir dans les lieux célestes de manière synchronisée avec lui. De manière synchro. Mais qu'est-ce qu'on prend de tout ce package? C'est quoi le ok, il nous a fait asseoir, ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe quand je mets ma foi en Jésus? Mais premièrement, il te ramène à la vie, comme on l'a vu. Il te ressuscite. T'es mort spirituellement. Il te ramène à la vie. Sans Dieu, t'es mort, t'étais séparé à cause de tes fautes, de tes péchés, j'étais comme ça aussi. Mais Dieu est riche en compassion et a pris toutes les conséquences de tes fautes, de mes fautes, en étant cloué sur la croix à notre place, car le salaire de mon péché, c'était la mort. Mais il t'a rendu à la vie. T'as rendu à la vie. Il te libère de la puissance du péché, pas de l'influence. De la puissance du péché. Ça veut dire que tu peux, aujourd'hui, si t'as le Saint-Esprit en toi, si t'as mis ta foi en Jésus, tu peux dire non au péché. T'as la capacité de le faire. Tu peux ne plus être esclave de toutes les choses qu'on a décrites juste avant. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de souffrance, tu n'auras pas de tentation, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rechuter, mais tu peux être libéré de ça. Et ton identité n'est plus basée sur tes erreurs, mais sur la victoire de Jésus. Appelez les musiciens à revenir. Il te fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus. Et là, on pourrait s'imaginer un petit peu comme dans les films, d'être sur un petit nuage avec Jésus en train de jouer de la harpe. Un peu comme la pub là, pour Ferrero Rocher, tout ça. Et non, c'est pas ça que ça veut dire. Dans le contexte de l'époque, ça avait une valeur incroyable. Et pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire, que ce que Paul veut dire ici, il faut relire quelques versets avant, au chapitre 1, versets 17 à 21. Voici ce qui est dit. C'est Paul qui fait une prière qui lui tient vraiment à cœur pour nous. « Je demande que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance. » Et tout le reste, c'est par rapport à l'espérance qu'on a en Jésus, à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui passons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en le faisant agir dans le Christ alors qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Regardez ce que ça veut dire. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il est en train de dire, le boss du boss, c'est Jésus. Il n'y a rien, il n'y a même pas de rival. Jésus n'a pas de rival. Tu sais, quand tu penses à noir, tu penses à blanc. Quand tu penses à chaud, tu penses à froid. Quand tu penses à Dieu, il ne faut pas penser au diable. Le diable est inférieur à Jésus. Il n'y a pas de rival, il n'y a même plus de combat. Il a gagné. Quand tu lis dans l'Apocalypse et tu vois la bataille d'Armageddon, en fait, c'est fou parce que Dieu arrive et la bataille est déjà finie. Il n'y a pas de combat qui est engagé. C'est comme si Dieu arrive sur le ring et en fait l'adversaire est déjà KO. Et là, l'arbitre, il dit, c'est bon. En fait, je viens de voir qu'il y a 2000 ans, il lui a mis un coup fatal. Dieu est victorieux. Dieu n'a pas de rival. Ça veut dire que si t'es en Jésus, t'es synchronisé et donc t'es victorieux en Jésus. C'est ce que Craig Kinner dit par rapport à ce passage, le fait d'être assis dans les lieux célestes. Le contexte fait ressortir un point supplémentaire avec une force particulière pour les lecteurs autrefois asservis par la peur du destin, des étoiles et de la magie ou des esprits. Être assis avec le Christ signifie, en chapitre 2, verset 6, ce que cela signifiait en 1, verset 20 et 21, le passage qu'on vient de lire. D'être intronisé, c'est-à-dire t'es assis sur le trône avec Jésus, au-dessus des puissances du mal. Les chrétiens n'ont pas à craindre les esprits du destin ou quoi que ce soit d'autre. Leur vie est dirigée par Dieu. Puis j'aimerais rajouter, t'as pas à craindre le lendemain, t'as pas à craindre la souffrance que tu es en train de vivre, t'as pas à craindre tout ce qui vient, tout ce qui vient t'oppresser, t'as pas à craindre tout ça parce qu'en fait t'es assis à la droite, t'es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Rien ne peut te séparer de ça. Rien ne peut te séparer de ça. Alors voilà tout le package que tu peux avoir quand tu mets ta foi en Jésus. Puis c'est quoi mettre sa foi? Parce que Éphésiens 2, verset 8 va dire la chose suivante. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Souvent, on a beau avoir 2 semaines de vie chrétienne, 10 ans, 20 ans, 30 ans, souvent on peut avoir une mauvaise conception de c'est quoi avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu, littéralement, c'est pistis. Et en fait, ça veut aussi dire fidélité. Et les théologiens vont être d'accord pour dire que c'est pas avoir foi en Dieu, ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas un mérite de notre part, c'est pas quelque chose que nous on doit porter en fait. Avoir foi en Dieu, c'est une autre manière de dire Dieu est digne de confiance. En fait, tu te bases, le mot pistis, avoir foi en Dieu, c'est tu te bases sur la fidélité de Dieu et non sur ta fidélité envers Dieu. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est très rassurant. C'est un pasteur théologien qui a mis ça sur les réseaux récemment. Il a dit, si je pouvais perdre mon salut, je l'aurais déjà perdu. Et c'est vrai. C'est dire Dieu est digne de confiance. Et c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Alors oui, ça fait mal à l'orgueil, parce que c'est de dire, Seigneur, en fait, j'ai besoin de toi, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je vais enlever les « mais j'ai été courageux par « mais Dieu ». 3 petits points. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pas moi. Puis on va juste regarder une femme, une jeune québécoise qui un témoignage qui m'a touché. Elle m'a regardé une vidéo, puis elle l'a vécu. Elle avait un passé de souffrance, un passé où elle avait fait des choix qui l'ont détruite. Mais elle a rencontré Jésus d'une manière très très simple. Et on va juste regarder son témoignage de quelques minutes ensemble.
Salut, mon nom c'est Saïe et ça fait depuis Pâques 2023 que je fréquente la chapelle. Une histoire courte, en fait, moi, c'est ça, mon père est pas religieux, mes parents sont pas religieux. Moi, j'ai grandi juste dans une famille, j'ai grandi avec ma mère monoparentale, mon père était pas présent. Ma mère était plus dans les pratiques de méditation, yoga et tout, fait que moi, j'ai grandi un peu là-dedans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à méditer, à faire un peu de yoga. D'un autre côté plus dark de ma vie, moi j'étais danseuse nue, donc je travaillais dans les bars de danseuses pendant à peu près quasiment 10 ans. Bon, dans tous ces 10 ans-là, j'ai vécu beaucoup de choses, des relations toxiques, de l'abus mental, physique, émotionnel, tous les mensonges autour de certaines croyances spirituelles et tout. Je, tu sais, au bout du compte, dans tout ça, je réalise que je faisais juste chercher un amour. Tu sais, je cherchais quelque chose pour remplir mon cœur. J'en suis venue à la conclusion qu'il doit avoir un chemin. Il doit avoir une vérité. J'ai quitté les bars vers l'âge de 29 ans et j'étais un peu athée. J'étais comme ouverte à s'il y avait quelque chose de plus grand, mais en même temps, j'avais pas nécessairement, comme je dis, j'ai pas grandi avec aucune croyance à un certain Dieu. Je connaissais les croyances de tout le monde et tout. Puis moi, j'étais comme, ça sera ce que ça sera. Puis un jour, j'avais besoin d'un signe pour faire une décision. Puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute, ben moi, j'étais comme Dieu, je savais pas c'était qui. J'étais comme, écoute, si t'existes pour de vrai, fais-moi un signe. Il m'a donné un signe quand je pensais que les 10 ans que je venais de vivre dans les bars et tout ça, c'était rien à comparer des 3 ans qui allaient suivre jusqu'à mon salut. Ça a été un chemin que j'ai dû avoir beaucoup, beaucoup de foi. Puis si j'avais pas cette foi-là, je pense pas que j'aurais survécu. Parce que c'était vraiment difficile, émotionnellement, de sortir surtout des bars de danseuses. J'étais tellement conditionnée à certaines choses et tout. Fait que c'était comme revenir à la réalité des choses. J'avais l'impression que je connaissais rien. J'ai découvert l'astrologie, tout ce qui est occulte, le tarot, les oracles. Je me suis embarquée dans tout ça parce que, encore une fois, j'avais tellement faim de trouver quelque chose qui me donnerait des réponses. Mais j'avais une foi qu'à tous les jours, je me disais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Quand j'ai atteint le bout du rouleau, j'étais tout seule au Mexique. J'étais dans un beau setting. Je pouvais pas mieux demander. Puis ça m'a vraiment prouvé que tu peux être n'importe où. Puis si t'as pas ça, peu importe où ce que tu vas être malheureux. J'étais tellement, tellement, tellement déprimée parce que j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Puis pendant 2 semaines, j'ai pleuré vraiment beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, les chemins. J'ai 32 ans, je veux bien avoir la foi, je veux bien croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. J'étais comme, il doit y avoir quelque chose de plus que ça, Seigneur. Puis j'ai dit, Dieu, juste donne-moi quelque chose. Un matin, je me suis levée, puis je pourrais jamais t'expliquer comment j'ai juste rencontré Jésus. Ça a été un puits de lumière qui est rentré en moi. J'étais assise dans mon lit, puis là, soudainement, tu sais, quand ils disent que tu vois ta vie défiler devant toi quand tu meurs, c'était ça. Ma vie, elle a juste fait comme ça en une seconde. Comme s'il y a plein de vitres qui se sont cassées, puis là, j'ai vu les mensonges du début à la fin. Toutes les illusions se sont brisées, puis là, j'étais juste comme, Jésus, t'es vrai, comme. Puis encore une fois, moi, je connais rien de la Bible, là. Genre, je sais que la Bible existe. Je pensais que Jésus, c'était juste un monsieur dans l'histoire. Tu comprends qu'on parlait de lui. Puis là, soudainement, je connaissais Jésus. Je connaissais que j'avais toute cette information-là que j'étais. Ça m'a pris quelques jours à processer parce que j'étais comme, comment que j'ai jamais lu la Bible, que je connais pas ça, puis pourquoi maintenant je sais ça? Puis comment j'explique ça au monde que aujourd'hui, en moins de 24 heures, je suis devenue chrétienne puis que j'ai donné ma vie à Jésus? Comment j'explique ça au monde parce que je viens juste de vivre un miracle? Puis après ça, toute la honte est venue m'avaler. Mes tatous, mon passé, toutes les décisions que j'avais faites. Je suivais des trucs artistiques, des trucs de culte spirituel. Soudainement, mon Instagram, mon algorithme d'Instagram a complètement changé. Et là, c'était un post chrétien après un autre. De gens qui me ressemblaient, de gens tatoués, de gens qui avaient trouvé Jésus. Puis là, soudainement, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça m'a de plus en plus rassurée et il attendait juste que j'arrive. Fait que je pense que la plus grosse transformation, c'est que maintenant, je me lève puis j'ai une raison de vivre. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais grandi dans l'Église, qui ne connaissait pas ça du tout, ma mission, c'est vraiment d'amener le monde puis leur donner une nouvelle vision par rapport à l'Église, par rapport aux chrétiens, mais surtout par rapport à Jésus.
C'est exactement l'invitation qu'on veut lancer ce matin à plusieurs. Ça y est, elle a dit que quand elle était dans cette pièce-là, elle a dit, mais en fait, Jésus, il était juste en train de m'attendre. C'est aussi simple que ça. Et on va prendre ce chant qui s'appelle « Tel que je suis ». En fait, c'est une invitation à venir à Jésus comme on est. Et juste se laisser accueillir par Dieu, se laisser être synchronisé avec Jésus. Et tout ce que ça me coûte, c'est de reconnaître que j'ai besoin de lui. C'est tout ce que ça me coûte. Parce que toutes les autres choses qui ont coûté, ça a été sur le dos de Jésus à la croix. Il a tout pris. Dans les clous qu'il a eu dans ses mains, dans ses pieds, dans les coups de fouet qu'il a eu, dans cette couronne d'épines, dans tout le poids spirituel de tous les péchés, de toute la honte qu'il a porté. Il a porté le tien, plus celui de ton voisin, plus tout celui de tous ceux qui sont dans cette salle. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de dire « Wow, je m'abandonne à toi. » Donc on prend ce chant, peut-être tu le connais pas, peut-être tu le connais, je t'invite à le chanter ou je t'invite même à écouter les paroles et puis si ça te travaille, prie. Prie ces paroles-là. Alors comprends, tel que je suis.
De don, agneau,
Reste dans cette atmosphère d'introspection, puis de cœur à cœur avec Dieu. Puis je vais juste inviter peut-être quelques personnes qui veulent faire ce choix de placer leur confiance en Jésus. T'as été touché, peut-être t'as le cœur qui chauffe un petit peu, tu sais pas trop ce qui se passe, ou un petit peu comme les témoignages. Je t'invite juste à faire cette prière dans ton cœur et te dire, ouais, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je décide de placer ma confiance en toi pour mon salut, pour ma joie, pour ma paix. Et je t'invite de manière symbolique, alors que les yeux sont fermés, on respecte ce moment juste à, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu veux faire ce choix symbolique devant Dieu, lève ta main là où t'es et dis: moi j'ai envie de m'engager. J'ai envie de choisir de placer ma confiance en Dieu. Et Dieu voit cet engagement. Dieu voit cette main qui se lève. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour les mains qui se sont levées. Parce que tu es littéralement mort pour ce genre d'engagement, pour ce genre de réponse, pour ce genre de personnes qui viennent à toi et qui te disent: mais je vais accepter ton amour, je vais accepter ce que tu as fait pour moi. Je te prie, Seigneur, de venir encore toucher nos cœurs. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore fait ce choix. Je te prie que ce message, cette bonne nouvelle de l'évangile, comme on l'appelle, Seigneur, puisse résonner dans le cœur dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et que ce message vienne encore changer des vies. Que ce message vienne encore résonner dans les cœurs de chacun. Merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour Pâques. Merci pour ta mort et ta résurrection. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait ce choix, restez pas seuls, venez nous voir. À la fin, il y a un espace écoute et prière où les gens sont là pour écouter, pour prier pour vous. Donc restez pas seuls. Le plan de Dieu pour vous, c'est vous rejoignez une communauté aussi avec qui vous allez pouvoir partager, être encouragé et encourager aussi. Donc restez pas seuls, on est là pour vous. Et Dieu veut pas que vous soyez seuls. Donc c'est bon pour vous, on va finir. On se réjouissant de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fera encore. Vous êtes d'accord avec ça? On se lève ensemble pour ceux qui peuvent. On va prendre ce premier chant qu'on a pris au début sur le fait que le nom de Dieu est victorieux. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'un Dieu qui meurt, qui ressuscite et qui est assis dans les lieux célestes est un Dieu victorieux? Est-ce que vous le croyez? Ok, le chant va vous en convaincre encore plus, je pense. On le dit ensemble.
Maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés revêt la majesté, l'éclat de son parfait amour révélé pour toujours.
Et son église chante ton nom.
Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi.
On y va, la peur.
La peur est chassée désormais devant Christ notre Père. Son dernier soupir à la croix maintenant vit en moi.
Et on chante ensemble.
Son nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi.
Oui, ton nom, oui, ton nom.
Son nom est victorieux.
Louange à toi, Christ notre roi.
l'esprit, je renais, de la force, je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Me redonne la vie. Me redonne la vie.
Pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité.
Ensemble on chante.
Christ est ressuscité.
Vous voulez une dernière bonne nouvelle ce matin ?
Une dernière bonne nouvelle ce matin, le même esprit qui a ressuscité Christ vit en nous. Vit en nous à chaque jour. On veut vraiment vous rappeler qu'il y a un prolongement possible par rapport à la résurrection du Christ. L'espace écoute et prière, vivre un temps d'écoute et de prière. Il y a toute une équipe qui, dans un instant, se mettra sur ma gauche dans cette allée qui est là. On vous attendra pour prendre un temps de prière. C'est peut-être la première fois que tu as fait cette démarche avec le Christ ressuscité. Prolonge cette expérience de la résurrection de Jésus en étant accompagné, en étant aimé avec quelqu'un qui va t'écouter et prier. On est aussi heureux de pouvoir t'accueillir. Si tu n'as pas le livre qui a été inspiré par le ressuscité, qui s'appelle la Bible, nous les pions, on sera heureux de pouvoir t'en offrir une. N'est-ce pas, Église ? Heureux que tu puisses repartir avec le livre inspiré par le ressuscité, par le Christ. Alors n'hésite pas à prendre ce contact avec l'équipe Écoute et Prière. Ils seront identifiés avec un badge. Toutes les personnes de l'Église qui ont vraiment ce cœur et qui sont vraiment là pour vous servir dans l'écoute et la prière. Donc je demanderai comme d'habitude à vous qui êtes sur cette allée tout à ma gauche de bien vouloir libérer l'espace. On voudrait juste aussi pensez à prier pour les personnes qui nous ont suivis en ligne ce matin. Certainement, des personnes en ligne aussi ont fait cette démarche, peut-être de dire « Mais Jésus, je veux te suivre ». Je voudrais juste qu'on finisse en prière ce moment, qu'on puisse bénir tous nos internautes qui ont été là. N'oubliez pas une chose, si vous n'êtes pas à Kinshasa, si vous n'êtes pas à Saint-Denis, l'île de l'île de la Réunion, si vous n'êtes pas dans des autres continents, si vous êtes en Alsace, à Strasbourg, cette rue des Frères Hébert, il y a une église qui sera heureuse de vous accueillir et de vivre ces temps de célébration. Vous pouvez faire connaître à nos internautes ce matin. Rien remplace une célébration en présentiel comme ça, avec la foi, la présence de Dieu, la fidélité de Dieu. Alors on va prier pour chacune et chacun, et pour vous aussi qui êtes en ligne, que Dieu continue son œuvre. Et si vous êtes dans un autre pays, un autre département ou autre, il y a certainement une église locale proche de chez vous qui annonce le Christ vivant, ressuscité, crucifié, ressuscité. N'hésitez pas à peut-être nous contacter en ligne aussi, on vous orientera si jamais vers une église locale pour vivre cette foi ensemble. Seigneur, merci pour cette célébration de Pâques. Merci parce que la mort a été vaincue. Merci parce que tu as déchiré ce voile qui nous séparait de toi. Merci parce que quand on place notre confiance en toi, quand on place en réalité notre confiance dans celui qui est fidèle, c'est-à-dire toi, Seigneur, tu nous remplis de ta présence, tu nous remplis de cet esprit, de l'Esprit Saint. Merci de rassurer, merci d'encourager, merci de bénir l'écoute et prière. Parce qu'il va y avoir aussi là un prolongement et un rendez-vous divin. Et nous prions pour que la vie soit manifestée là où il y a la mort. Là où il y a la souffrance, la tristesse. Là où il y a aussi, Seigneur, la quête de sens. Merci vraiment de bénir chacune et chacun. Tout ce que nous allons vivre encore pendant ce week-end. Merci de bénir la vie de notre église locale. Aide-nous à nous souvenir que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Alors à toi toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Un bon retour à chacune et à chacun. Un petit coup de coude koinonia pour dire passe une bonne semaine, sois béni. Ça pourra toujours faire du bien de s'encourager. Et merci à toute l'allée de gauche de bien vouloir libérer l'espace, s'il vous plaît, de manière à ce qu'il y ait une bonne écoute et prière. Bonne semaine à chacune et à chacun.